Juan, merci beaucoup hein, pour ta venue chez nous. Alors,
bonjour et merci Rémi et merci à l'IPSEM de m'avoir invité à venir vous parler sur l'incertitude. Effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse depuis plusieurs années. Et c'est vrai que j'ai mis déjà ici, on voit en première, en titre, je dis le déni de l'incertitude, et je me base assez souvent, donc j'ai pas mal de discussions, notamment avec l'entretien motivationnel, où, en fait, avec la roue de la fortune, vous avez toujours raison, vous avez comme ça pu construire un schéma certain sur l'incertitude, hein, puisque de toute façon, vous avez toujours raison, comme la vie, hein, le chemin du karma aussi qu'on peut retrouver ici, hein, donc comme ça on peut essayer de s'améliorer au cours du temps, et à mon avis, hein, puis la perception, mais pas seulement la mienne, d'autres chercheurs, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc la première chose, je vais me positionner, donc comme cette peinture d'un peintre allemand, romantique allemand, donc où je suis sur un sommet, il y a beaucoup de brouillard, c'est un chemin que j'ai parcouru, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, et donc j'ai partagé les quelques pics ou le bout de ciel qui me paraît intéressant dans l'exploration de l'incertitude. Alors, le premier postulat que je dois poser, c'est qu'est-ce que pour moi la médecine? Et là, je prends une définition que j'ai trouvée par une écrivaine française, Louise Lambrinch. Alors, la médecine, c'est pas d'abord une science. Elle a de multitudes de vérités qui sont valables dans des champs bien spécifiques. Et c'est un ensemble de savoirs et de pratiques. Et c'est donc un mélange de sciences, de techniques, d'artisanat et d'art. Qu'on définit ça, ben, on peut sortir, notamment, de ce qui essaie maintenant de nous mesurer tout le temps, l'efficacité économique, hein, parce que evidence-based medicine est devenu pour moi l'instrument que nos politiciens, en Suisse en tout cas, nous donnent pour rembourser ou pas rembourser les actes médicaux ou infirmiers. Il faut avoir la preuve, et il faut avoir surtout la preuve, pas seulement de réduire quelque chose, mais d'avoir une réduction des coûts financiers. Et ça devient un problème majeur. Donc si on réduit la médecine à evidence-based et à la science, on va réduire beaucoup l'art des soins et de la médecine. Alors, mon autre postulat, c'est que la condition humaine est imprégnée, fait partie de l'incertitude. Un être est déjà toute une aventure, la conception est une aventure, rester en santé ou avoir une trajectoire personnelle, c'est toute une série de portes qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Quand je réfléchis à ma propre trajectoire, je voulais être égyptologue et je suis devenu médecin. Donc voilà, hein, donc il y a quand même pas mal de changements entre les deux, entre les deux attitudes. Et tout au long de ma carrière, j'ai pris des portes que je prévoyais pas de prendre. Hein. Je voulais être cardiologue et puis j'ai rencontré Jean-Philippe Assal. Donc évidemment, ça a changé mon parcours. Je voulais faire de la clinique. Je me suis retrouvé à faire de la recherche en génétique. Donc j'ai fait comme ça une série dans ma vie personnelle, professionnelle, de choix où je ne sais pas si c'est moi qui choisis ou c'est les circonstances. Et là, c'est important. Donc, il n'y a pas que nous. Il y a aussi le terrain dans lequel on exerce, hein, et donc qui est incertain. Alors, bien sûr, on ne peut pas se référer à l'Institut sans parler d'Edgar Morin. Donc, je ne vais pas faire le résumé. Vous le connaissez mieux que moi, toute son œuvre autour d'Edgar Morin. Là, c'était une proposition pour changer l'éducation nationale. Il y a notamment la pensée d'interdépendance qui est source d'incertitude en santé et en soins. Et puis peut-être dans l'éducation thérapeutique, penser la création singulière, donc en situation. Et ça, j'insiste beaucoup, on crée en situation. Et donc l'éducation thérapeutique, lorsqu'on l'applique chez le patient, lorsqu'on l'enseigne, le patient va la transformer en situation par rapport à ses propres expériences. Alors, d'autres principes qui me paraissent importants, c'est essayer, à travers l'éducation, d'organiser les connaissances des patients. C'est donc pas de construire de nouvelles connaissances, mais peut-être essayer de les réorganiser autrement. Et puis, surtout, apprendre à affronter l'incertitude, le patient, le professeur Grimaldi l'a très bien dit, le vit au quotidien. Donc, ça fait partie de la courbe de Gauss, qui est aussi une aberration, puisque la glycémie n'est pas gaussienne. Donc, déjà, on ne peut pas la cacher sous une cloche. Donc il y a des résultats qui sont imprévus, dont on n'a pas d'explication. Et ça, ça fait partie du quotidien du patient, mais aussi du soignant. Donc essayer de sortir de ce déterminisme dans lequel on est plongé depuis au moins 2 siècles. Par rapport aux liens multiples entre santé et puis société, là je vous montre simplement cette corrélation. Bon, une corrélation n'est jamais une preuve, comme vous le savez en statistique. C'est l'indice de Gini. Alors Gini, c'est un économiste italien qui a défini le taux d'inégalité dans un pays. Donc une corrélation à 1, ça veut dire que, par exemple, M. Berlusconi a tout l'argent et tout le peuple a 0 argent. Donc ça serait une corrélation à 1. Et puis la corrélation à 0, tout le monde gagne la même chose. Eh bien, on trouve une corrélation entre l'inégalité sociale et la mortalité. Et ça ne s'explique pas simplement par la physiopathologie, l'environnement. C'est beaucoup plus complexe que ça. On retrouve dans d'autres études entre le niveau de culture et le taux de mortalité, par exemple, pour les patients qui sont pontés, le même chirurgien, la même technique pour les pontages coronariens. Donc il y a des éléments qui nous dépassent, qui font partie de ce que nous ne connaissons pas. Une autre étude qui est pour moi aussi intrigante, c'est l'étude des réseaux sociaux. Ici, c'est les réseaux sociaux autour de l'obésité, avec la fameuse cohorte de Framingham, suivie pendant plus de 30 ans. On retrouve qu'il y a plus de corrélation, en fait, d'avoir un ami obèse, même s'il habite à 15 000 km de chez nous, qu'avec des gens de notre famille, alors qu'on dit que l'obésité, c'est lié à l'environnement, au stress, à la génétique. Eh bien non, le réseau social est beaucoup plus important et indépendamment de la distance. Bon, ça c'est le côté négatif, mais aussi le côté positif. Une autre étude faite sur les réseaux sociaux montre que si vous avez quelqu'un de heureux dans votre quartier, il y a plus de gens heureux dans les 2,5 km autour de vous. Donc il y a aussi des côtés positifs, et on n'est pas toujours dans les côtés négatifs. Donc évidemment, si je parle d'éducation, je dois parler de mon maître, Monsieur Assal, qui, peut-être pour l'anecdote, le mot éducation thérapeutique, il est né dans l'urgence en 1995, je vais traduire en français. Donc, où là, il était pressé par un ministre italien qui avait du budget et qui voulait développer quelque chose autour de l'éducation, mais sans prendre des soignants. Et donc, dans l'urgence, il a inventé ce terme, éducation thérapeutique. Voilà le terme, l'origine du terme par Jean-Philippe Assal. Alors, ce que j'observe, c'est que cette éducation thérapeutique actuellement, elle prend sens différent. Je pense que chacun a parcouru des montagnes différentes, à des pics différents, et la définition que donne peut-être le professeur Grimaldi ou moi-même ne sont pas forcément les mêmes, mais elles vont compléter une vision de ce que pourrait être l'éducation thérapeutique. Donc, pour moi, c'est un petit peu comme la théorie de la résonance de Moni El-Khaim. Chacun va construire une hypothèse à partir de sa propre construction du monde. Et donc, nos trajectoires professionnelles, notre trajectoire de vie fait qu'on va percevoir certaines étoiles et essayer de construire comme ça des conjonctions d'étoiles qui sont censées nous aider à prédire les choses dans l'incertain. Donc voilà, on peut être dissonant, mais c'est lié à notre résonance. Alors vous connaissez ces définitions, je ne vais pas repasser dessus. Donc un processus permanent aux soins, qui est intégré dans les soins, où on va donner... les compétences aux patients. Et c'est vrai que ça, c'est l'équipe de Jean-François Divernois et Rémi Gagnère qui a beaucoup développé le diagnostic éducatif et les compétences du patient. Or, c'est un concept important, mais à mon avis, pas suffisant encore pour définir ce qui passe. À mon avis, la compétence va se développer dans le terrain, dans l'action. Donc, on va donner des outils. Là, il y a un certain nombre d'outils. Mais c'est quand il va travailler avec les outils qu'il va développer ses propres compétences. Alors on l'initie dans un mouvement, mais la suite du mouvement, c'est le patient qui la crée. Et ça, c'est un point important. Donc, à un moment donné, le produit de l'éducation nous échappe. En tant que soignant, si on a le sentiment de devoir contrôler le patient dans cette démarche. Et c'est vrai qu'on peut se battre autour de l'éducation comme les 7 sages... aveugles qui sont en train de palper un éléphant, chacun va donner une définition différente et personne n'aura en fait la vision globale de l'éléphant et de ce que est réellement l'acte éducatif et le processus éducatif qui se passe chez notre patient. Et là, je reviens sur la médecine d'aujourd'hui. Et ça, c'est une réflexion qu'a eue Francis Waldfogel avec, je crois, le professeur Jordan autour de la médecine d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'au centre, hein, les publications Evidence Medicine, c'est la biomédecine. Hein, c'est ce qui mesure tous nos actes, y compris les actes éducatifs, qui sont, à mon avis, pas toujours mesurables. Mais au-delà de ça, la plupart de nos patients ont des souffrances au niveau psychosomatique. Et là, on rentre dans le non mesurable. Et par exemple, on assiste maintenant actuellement en Suisse à une revision de l'assurance invalidité. Et on va revoir tous les cas psychiques pour voir s'ils sont vraiment malades. S'ils ne sont pas malades, on va les remettre en fonction sur le plan professionnel. Juste parce que ça ne se mesure pas. Donc on voit, on est quand même bloqué dans le modèle biomédical. Et on ne peut pas encore accepter qu'il y a d'autres éléments qui peuvent influencer la santé. Et à mon avis, le plus grand problème que je rencontre à ma consultation, au-delà du contrôle de la glycémie, c'est le mal-être en général. Et le patient ne vient pas me voir simplement pour me montrer son carnet. Alors, j'en discutais avec Jean-François d'Hivernois. C'est vrai, quand le patient me tend son carnet, je lui redonne, je dis « Mais comment allez-vous ? » C'est la première chose que je fais. Effectivement, je me sens un peu obligé. Si je prends le carnet, je le réduis à être un carnet glycémique. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, repousser pour prendre conscience de l'être en face de nous qui, en 3 mois, il a pu vivre différentes situations plus ou moins compliquées qui peuvent expliquer l'état actuel de son contrôle métabolique. Il y a aussi un problème actuellement avec la médecine, et ça, c'est tout récemment le professeur Panese, qui est anthropologue et sociologue à l'université de Lausanne, qui m'a ouvert les yeux. C'est les différentes dimensions que tend à couvrir la médecine, hein, le bio, le psycho, le social, l'environnement, puis je ne sais pas si c'est la mode en France, mais en Suisse, le spirituel. Ça maintenant, ça devient très fort, on fait des colloques, on invite différentes personnes, croyants, non-croyants, autour du spirituel. Et Francesco Panese se pose la question, est-ce que on n'est pas dans l'utopie sanitaire? Est-ce que le champ de la médecine est de couvrir autant de dimensions? Est-ce qu'on a la capacité de le faire, d'aller jusqu'au spirituel et d'essayer de couvrir le tout? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous dépasse? Il pose juste la question et il nous fait juste réfléchir autour de cette affirmation du modèle global auquel on tend actuellement à se positionner. Alors, l'autre problème que je vois, c'est les modèles. Actuellement, on abonde de modèles autour donc des soins. Donc là, c'est évidemment pas une liste complète des modèles autour de l'éducation, mais chacun s'en imprègne, va en prendre 3 ou 4, les mettre ensemble, construire une mosaïque de modèles pour essayer d'avoir quelque chose de global qui parle aux autres. Et c'est vrai que j'ai l'impression, c'est un peu comme ces matrioshkas, où chaque fois on essaye d'ouvrir une boîte, essayer d'aller jusqu'au noyau de l'individu pour essayer de le comprendre. Mais chaque fois, on va avancer d'un pas, mais globalement, on est aussi limité par le matériel et la façon dont on va construire ces modèles. Et ça, c'est le grand problème de l'entretien motivationnel, où en fait, on a toujours raison, c'est toujours, on est tous contents autour de là, et c'est pas forcément utile. Hein. Il y a une dernière étude sortie dans le British Medical Journal qui montre que l'entretien motivationnel et thérapie cognitivo-comportementale ne marche pas. Je me souviens plus dans quelle maladie chronique, mais il n'y avait aucun résultat. Donc voilà, c'est juste pour essayer de casser un peu le mythe de la roue de l'entretien motivationnel. Et quelque chose qui me paraît fondamental, et peut-être c'est aussi lié à ma trajectoire, c'est que si je reprends le fameux livre d'Antonio Damasio, « Dissociation de l'esprit du corps, de l'objet du sujet, de l'émotionnel du rationnel », je pense que dans l'éducation thérapeutique, on a beaucoup oublié le soignant. On est en train de dire ce que doit faire l'autre, mais on est aussi un instrument d'éducation. Donc forcément, on doit aussi réfléchir à notre propre position de pourquoi on réagit de telle manière avec tel patient. Et ça, c'est fondamental, donc il faut aller au-delà de l'éducation, de pensée rationnelle. On doit donc s'inclure dans cette démarche. Comme ce tableau des chairs, l'exposition de gravure où la personne est en train d'analyser le tableau, mais ne se rend pas compte qu'elle fait partie du tableau, partie intégrante du tableau. Donc on est obligé, si on veut vraiment penser l'éducation thérapeutique, réfléchir à nous-mêmes, nous inclure dans ce modèle, et donc avoir une co-construction de l'expérience. Le patient nous modifie, nous modifions le patient, quelque chose se passe entre nous, et ça me paraît une étape importante dans l'éducation thérapeutique. Donc, ceci a bien été mis en évidence il y a plus de 50 ans par Balint, hein, qui justement, a fait, avec les fameux groupes Balint, où on réfléchit à nos pratiques, il y a un échange entre pairs, et je pense que c'est effectivement une méthode qui est surtout pratiquée par les psychiatres ou les généralistes, moins par les spécialistes, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces échanges informels autour de groupes Balint ou d'autres formes d'échanges entre pairs par rapport aux situations cliniques. Et, disons, en réfléchissant autour de l'éducation et ce qui se passe chez le patient, mes lectures m'ont amené à redécouvrir une théorie déjà assez ancienne, mais qui me paraît intéressante. C'est la théorie de l'énaction. C'est l'action par la vision par l'action. Et Francisco Varela, qui était un neurobiologiste, par exemple, nous aide à comprendre pourquoi voir, c'est pas simplement avoir des yeux. Et là, il cite l'expérience de Held et Heim, compris des petits chats, donc relativement naissants, et les a mis dans une expérience confrontée à l'obscurité et à la lumière. Puis il y avait deux sortes de petits chats. Des chats qui déambulaient et des chats qui étaient dans un chariot attaché aux chats qui pouvaient déambuler. Et donc on a éteint et on allumait les lumières. Au bout de quelques mois, on a arrêté l'expérience et on a mis la lumière pour tout le monde. Et on voyait que les chats qui déambulaient voyaient, alors que les chats qui pourtant avaient la perception de la lumière, mais qui n'avaient aucun acte, ne voyaient pas. Donc la vision nécessite pour se développer d'avoir une action. Et donc ça c'est un point important, c'est pas juste une description du monde, il faut aussi agir dans ce monde pour que nos synapses et nos neurotransmetteurs se développent. Donc la vision n'est pas juste un décryptage, donc ça c'est la théorie de l'énaction de Francisco Varela. Par exemple, là, il y a une année, j'ai décidé de faire un peu un défi, et je suis parti faire un trek en Islande. Heureusement, je n'étais pas seul, autrement je ne serais pas là aujourd'hui, parce que je me perds dans une salle de bain. Là, il y avait un guide. Et pourtant, moi, j'étais impressionné parce qu'il prenait pas de boussole et puis il nous ramenait chaque fois au domicile. Donc là, il n'y a pas de chemin. Donc j'ai pas pu m'empêcher de vous citer un de mes compatriotes, le fameux Antonio Machado, qui dit, c'est tout voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, le chemin se fait en marchant, et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Quand on fait des expériences avec les patients autour de l'insuline repas, c'est aussi ce genre de processus qui, à mon avis, se passe. Alors, cette théorie de l'inaction, si on la situe dans le temps, elle est la troisième théorie après la théorie cognitiviste, où on pensait que le cerveau était un simple ordinateur, donc on avait quelque part dans nos têtes une bibliothèque d'images sur ce que c'est une petite tasse, la théorie émergentiste, où tout va tout à coup apparaître, on voit la tasse émerger, et l'inaction, où c'est la voie du milieu, où à la fois il y a notre cerveau qui connaît, mais il connaît surtout par l'action et la perception. Donc c'est cette troisième voie que propose Francisco Varela. Ceci a donné lieu, et là je cite, c'était quelqu'un que je viens de découvrir tout récemment, c'est un pédagogue canadien, malgré son nom italien, qui parle de compétences en situation. Donc les compétences se développent, on apprend et en contexte. On peut donner des pistes au départ, donc, et on développe, au-delà des compétences, il y a aussi des compétences sur la maîtrise, sur la posture de soi. Il fait notamment le parallèle avec certains arts martiaux. Et il utilise aussi des diverses ressources, comme les soignants, comme son expérience, comme d'autres patients. Cette théorie a l'intérêt de peut-être plus correspondre à ce qu'on a l'impression qui est la théorie du fonctionnement du cerveau. C'est peut-être pour ça que moi, personnellement, ça me parle un peu plus. Et cette expérience incarnée, je l'ai retrouvée, j'ai fait une formation en psychosomatique à travers deux expériences que j'ai faites, c'est les sculptures en systémique familiale, où lors de situations familiales, on va prendre après les soignants et on les positionne par rapport à une situation familiale. Et on fait parler les gens de ce qu'ils ressentent. Et c'est intéressant, on découvre des problèmes familiaux simplement en se mettant en scène par le systémicien. Comment ça marche, je ne sais pas, mais il y a effectivement, par exemple, une histoire d'abus, de violence conjugale qui s'est révélée juste au moment de l'acte de faire la sculpture. Ce n'était pas conscient au psychiatre, c'est devenu conscient au moment où on a construit la sculpture. Donc notre corps nous transmet d'autres façons de connaître les choses et ce n'est pas uniquement une affaire de cerveau. On retrouve la même démarche dans le psychodrame de Jacob Lévy Moreno, qui est un contemporain de Freud, mais dont on a moins parlé, et qui est aussi une technique utilisée pour essayer d'aider les gens à mieux se traiter. Donc vous voyez, on a un peu dérivé sur la psychosomatique, mais je pense qu'il y a des sources intéressantes pour l'éducation thérapeutique. Et maintenant, si je reviens à l'éducation thérapeutique, on essaie maintenant de la mettre en dessin. C'est vrai que lorsqu'on fait des expériences, l'expérience, c'est une expérience contrôlée, comme apprendre à faire de la varap. Là, il y a des cordes de rappel, il y a quand même des clés où on peut saisir. Là, on peut apprendre à grimper. Et puis, le patient, il retourne dans sa condition naturelle. Et là, il doit inventer comment monter cette paroi. Et l'acte de grimper, la varap, est un acte d'inaction. Il n'y a pas à l'avance une prise. La prise, en fonction de ses capacités, de ses ressources, de l'endroit où il se trouve, il va trouver une prise. Elle n'existe pas, elle émerge au moment où il commence à grimper. Et à mon avis, ça fait une bonne corrélation par rapport aux expériences qu'on a vécues dans différents cours qu'on a maintenant mis en route à Lausanne. Alors, ce qu'on a observé, c'est les cours de FIT, qui au passage a été inventé par un patient. C'est un patient ingénieur, c'est pour ça qu'on a ces règles de trois. Hein, c'était quelqu'un qui travaillait avec les règles de trois, qui a inventé la méthode pour lui. Les Autrichiens, les Allemands et les Suisses-Allemands ont été importés la méthode et les médecins l'ont transformée en la méthode qu'on connaît actuellement. Mais au départ, c'est un patient qui a inventé la méthode. Ce qu'on a observé au cours du temps, c'est qu'après les cours de FIT, les patients font autrement. Ils ont des meilleurs résultats. Mais c'est pas ce qu'on leur a enseigné. Ils parlent plus d'unité par 10 grammes. Et donc, à partir de là, on a construit un autre type de cours, parce qu'on a vu qu'ils avaient, dans 75% des cas, des bons résultats dans l'insuline repas, mais 25%, ça marchait pas. Donc, on a développé un cours qui est basé sur l'incertain. Et on part d'un premier cours qui est basé sur une situation qui n'a rien à voir avec le diabète. Comment on va résoudre, cette incertitude? Et puis, on va, deuxième journée autour d'une expérience jugée facile, troisième journée jugée difficile, et quatrième, quelles sont en fait la roue de décision que prennent les patients. Et ce qui est intéressant, c'est le dernier groupe qui a fait ça, les jugés faciles, ils ont eu plus d'échecs qu'avec les difficiles. Hein, donc c'était déjà intéressant, et ça, on leur a communiqué. Puis là, on a vu émerger le même principe autour de gestion des émotions, se référencer à des situations antérieures. Donc il y a comme ça une espèce de logique qu'on retrouve au fur et à mesure des quatre groupes qu'on suivi ces cours. Donc ça, c'est un premier produit de ce qu'on fait maintenant autour de l'incertitude. Le deuxième cours, vous avez probablement déjà entendu parler avec Marc Aigli, les cours de pompe. Au début, on était motivés à faire des cours pour essayer d'avoir plus d'aptitude à donner aux patients avec la pompe à insuline, puisqu'on a beaucoup plus de facilité technique pour développer des approches très personnalisées. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'est pas ce qui les intéressait. C'était la gestion de l'incertitude. Donc on a travaillé sur une autre dimension autour des cours de pompe, qui sont devenus à la fois recherche de solutions par échange entre pairs, mais aussi déconstruire la certitude qui paraît au départ une chose, venant de soi. Le troisième produit, c'est la mise sur pied d'un cours que j'appelle accompagnement thérapeutique, où justement on inclut maintenant une réflexion sur le soignant qui fait partie du modèle et pas on n'est pas juste en train d'enseigner l'autre. Donc c'est un cours qui vient de démarrer. J'ai même l'honneur d'avoir quelqu'un de France qui participe à la première volée. Donc je peux dire que c'est international maintenant pour ce cours. Donc et si je résume, donc et c'est vraiment pas définitif. Hein, c'est quelques outils qui me paraissent importants autour de l'accompagnement thérapeutique. Un des instruments importants, c'est l'autoréflexivité. Hein, et ça me paraît important. Donc il y a différents positionnements qui se font en fonction de la personne et de la situation. Et l'empathie, donc ça, on en a parlé, effectivement. Je cite un autre livre, c'est Franz De Waal qui lui parle des singes. Et on voit que l'empathie fait partie de la depuis 100 millions d'années hein, du règne hominé. Donc c'est quelque chose qui, peut-être, on est encore sur Terre à cause de l'empathie, et pas seulement parce qu'on a un gros cerveau. Ce qui a peut-être sauvé jusqu'à maintenant notre humanité. Et donc, lorsqu'on est en consultation, quand le patient ouvre la porte, c'est vrai que chaque fois, je vais avoir une histoire différente et je dois tout à coup m'ancrer en situation. Et ma consultation est aussi un acte d'inaction. Je fais une consultation dont, à l'avance, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des patients difficiles, des patients faciles, des patients qui, pendant 3 ans, n'ont rien fait, et tout à coup, paf, il y a tout qui s'améliore, et il y a une intervention extérieure. Donc, je dois être attentif à ça, parce qu'à chaque moment, je ne suis pas préprogrammé, c'est encore cette emmerdeuse où je vais de nouveau pouvoir rien faire. Non, il y a des choses qui se passent en dehors des consultations, et la majorité des choses se passent en dehors de notre consultation. Donc, ça, c'est important, on n'est juste là que très, très provisoirement. Et peut-être pour illustrer, et j'ai bientôt fini, l'acte inactif, je reprends une séquence de Amadeus, où en fait Amadeus s'est présenté au roi de Prusse, et puis Salieri, faussement modeste, a fait jouer par le roi de Prusse une petite marche. Et j'espère que le son, maintenant je passe dans l'incertitude, j'espère que la technique va suivre. Et voilà. S'il vous plaît.
Après une seule écoute. Je crois que oui, sire.
Oui.
Voyons cela.
Donc Mozart va jouer la partition telle que Salieri lui a donné.
Le reste n'est que reprise, n'est-ce pas ? Un petit défaut là. Avez-vous essayé? Ne serait-ce pas un peu mieux si? Ou cela?
Cela?
Oui.
C'est mieux. Qu'en dites-vous?
Espérons que nous ne serons pas des Salieri face à nos patients si tout à coup ils transforment nos méthodes. Voilà, j'ai fini. Alors maintenant ma question. Alors voilà une question que je me pose, donc je vais la poser à l'Assemblée. Avons-nous besoin d'une nouvelle théorie dans le domaine de l'éducation thérapeutique ?
Heureusement que je ne suis pas dans les groupes. Merci, Juan, merci.